Oui, salut Daniel. J'écoute depuis quelques jours vos reportages sur le Rwanda. J'ai également regardé les reportages diffusés sur RT. Et ce qui est particulièrement terrifiant, c'est le peu de remords, voire même l'absence totale de remords que semblent éprouver les tueurs. Ils se réfugient pour la plupart derrière les trois mots magiques qui, depuis la nuit des temps, permet à l'humain de justifier l'injustifiable, obéir aux ordres. Ils veulent bien demander pardon à Dieu, mais pas aux survivants. Dieu, un autre mot magique qui sert aussi bien souvent à justifier l'injustifiable. Si bien sûr son comportement n'est pas typiquement africain, il est malheureusement profondément humain. Il serait temps de modifier le sens du mot inhumain que l'on emploie généralement pour qualifier ce genre de comportement. Tout cela est humain, tristement humain, monstrueusement humain. À chacun son pays, son drapeau, ses racines, sa culture, sa religion, son quartier, sa rue, son équipe de foot. Tout ce qui justifie qu'on aille taper sur la gueule du voisin. Et il y a de l'espoir. Quelques spécimens de l'espèce essayent de faire bouger les choses. Pour l'instant, on essaye plutôt de les faire taire, mais peut-être qu'un jour, on finira par les écouter. Allez, salut.
Il y a une question qui m'a obsédé tout le temps, mais c'est comment c'est possible de tuer des gens comme ça? Et ben, est-ce qu'ils sont différents de nous pour avoir réussi à tuer comme ça? Et j'ai repensé à mon grand-père qui avait fait la guerre de 14 et qui avait vécu toutes les horreurs du chemin des dames et qui finalement avait l'air de me dire à l'époque, quand j'étais tout petit, que ben, on s'habitue à tuer des gens, on s'habitue à ces choses-là. J'ai repensé à ça en passant l'émission sur les mutins de crâne. Voilà, Daniel, puis je voulais aussi te dire que je suis paysan. Je suis pas syndiqué, parce que entre un syndicat de curé de gauche et un syndicat de curé de droite, je m'y retrouve pas. Mais j'ai des vaches laitières, et puis on est un métier qui va disparaître, comme les mineurs autrefois. Parce que, bah, chaque fois qu'il y a une réforme, on nous ampute un petit peu le revenu, on nous demande de travailler encore un peu plus, et puis, bah, voilà, j'en peux plus, je travaille 70 heures par semaine, ma femme aussi. Et puis, bah, c'est trop dur, quoi. Salut, continue.
La semaine dernière, vous avez, à l'occasion d'une émission consacrée au Rwanda, évoqué la responsabilité de l'ethnicité, qui serait d'après vous une prison mentale imposée par la colonisation. Moi, ça me paraît assez étrange comme idée. Il me semble que, au contraire, la colonisation avait mis un terme aux guerres tribales que nous voyons maintenant réapparaître, justement. Alors, vous savez, on nous a expliqué que la colonisation, c'était pas bien. On a décolonisé, et c'est 100 fois pire. Bon, mais en gros, c'est quand même toujours la faute de l'Europe, de la France. Ce qui ne va pas en Afrique, c'est toujours de notre faute. Moi, je vous invite à être un peu plus honnête vis-à-vis de la réalité historique et vis-à-vis du pays qui vous fait vivre et qui vous verse un salaire confortable, généreusement prélevé sur nos impôts.
Sur le Rwanda, j'estime que les gens qui étaient au pouvoir politique à l'époque devraient passer en jugement, parce qu'ils savaient réellement, moi j'ai vécu en Afrique très longtemps, en Angola et ailleurs, et je peux vous dire une chose, c'est qu'on savait très bien ce qui se passait. Et c'est pas les Français qui sont en cause, ce sont les responsables politiques. Et c'est complètement... C'est pas juridiquement viable de se cacher, de faire l'autruche. Et c'est pas les Français qui sont coupables. Ce sont les hommes politiques qui ont le pouvoir à un moment donné et qui ont le droit de décider ou pas les choses et qui ne le font pas. On aurait pu éviter ce massacre et c'est une honte pour la France. Et ça surgira, ça, dans l'avenir. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt.
Du tangage dans les voiles du répondeur de la Bassi. J'y suis au sujet du Rwanda. Il y a pas mal de tangage entre ces nostalgies coloniales et les procureurs de l'anti-France. Et puis aussi quand même une volonté, une réelle volonté à travers toutes les émissions, reportages, livres, etc., publiés à l'occasion de ce 10e anniversaire du génocide du Rwanda, une réelle volonté de comprendre, de s'interroger, comprendre non pas évidemment pour excuser, ni d'ailleurs pour pardonner, mais pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a 10 ans dans ce petit pays. Alors aujourd'hui, on continue avec le Rwanda, et ça c'est vraiment une erreur professionnelle. Un jour comme aujourd'hui, un beau lundi de Pâques, de printemps, tout bourgeonne, on est bien, on est heureux, et voilà que nous retournons dans cet enfer. Et puis c'est un sujet dépassé, hein, le Rwanda, ça y est, c'est bon, la page est tournée, maintenant c'est l'Irak, c'est Paris-Roubaix, c'est les de Pâques et ses bisons futés. Et pourtant. Ah.
Você vai conjugar o verbo avoir. Garro não é conjugue. Mori present. Do indicativo.
GG. Tiwa.
Nous savons, ils y sont, ils
y sont. Bravo. Et le verbe être. Je suis, tu es,
il est, nous sommes, nous êtes, ils sont, ils y sont. Comment tu t'appelles, toi?
Judith.
Judith, toi tu as connu Valentine l'année dernière? Yes. Oui. Qu'est-ce qu'elle devient? Parce que moi je vais te dire, je l'ai connue il y a presque 10 ans.
On vivait déjà ensemble dans le groupe, prise en charge dans le groupe des affaires rescapés du génocide.
Toi tu es aussi rescapé?
Yes.
D'où? De quel endroit?
Okay.
Je suis de Rukira, c'est juste pas très loin d'ici.
Oui, ambwira ko famille yabo ubundi babatemye, babatemereho ngaho nyine aho bari bari babavanye mu mazu, babasanze ku rusengero aho bari bahungiye, bamaze kubatema aho ngaho bari bari mu ntundi, ama abanibo babakuyemo.
Elle m'a raconté qu'en fait, toute la famille et d'autres voisins s'étaient regroupés dans un lieu de prière, dans une église. Elle m'a dit que les assassins sont venus, ils ont découpé tout le monde, y compris elle, mais qui a été partiellement blessée, et que finalement, c'est vous qui l'avez sorti de là.
Dix ans après, nous voilà au Rwanda. Évidemment, au cours de ces années et au cours de ces reportages récents, nous avons, avec Guy, avec Madeleine, avec ceux que nous connaissons, cherché les opposants, ceux qui, un peu ou beaucoup, avaient essayé de se mettre en travers de la monstruosité des meurtriers. Il y en a eu beaucoup plus qu'on ne le dit, beaucoup plus qu'on ne le suppose. Certains qui ont résisté se taisent, se sont tus de crainte des représailles. Mais il y a sans doute une autre résistance qui nous a échappé, la plus précieuse, la plus fondamentale vraiment, c'est la survie. Ceux qui ont survécu, ceux qui, comme Valentine, dont nous parlons encore aujourd'hui, ont survécu, comme Flora, que nous avons rencontrée, qui a résisté, qui a survécu 30 jours parmi des cadavres, et Valentine, 43 jours parmi les cadavres. Qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se laisse pas glisser un jour où vraiment, vraiment, ça y est, on perd conscience, il n'y a plus rien à manger, il n'y a pas à boire, évidemment, on est au milieu de ce tas de cadavres. Qu'est-ce qui fait qu'on tient quand même? Qu'est-ce qui fait qu'on tient quand même? Qu'est-ce que c'est que cette espèce humaine qui s'agrippe? Si, des années plus tard, on retrouve Valentine, comme on va le faire dans un instant, on trouve une femme maintenant, puisqu'elle elle a 23 ans, c'est le même caractère. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui résiste, qui affirme, qui se bat, qui fait la différence entre le pardon qu'elle accorde à certains et le pardon qu'elle refuse à d'autres qui mentent ou qui ne veulent pas dire ce qui s'est passé. Et entre cet enfant que nous avons vu, dont nous avions fait, évidemment, pour nous consoler au moins, pour atténuer un tout
petit peu notre honte d'être alors des êtres humains. Nous avions fait de Valentine une espèce de figure de la résistance. Évidemment, c'était symbolique. Eh bien, le temps nous a montré que nous avions raison. C'est bel et bien, il y a quelque chose de la résistance chez une personne comme ça, chez une jeune femme comme ça, et chez un certain nombre d'autres que nous avons rencontrés, qui évidemment aujourd'hui jouent un rôle important, même si c'est très difficile de jouer ce rôle. On a dit ce que pouvait être la vie, la survie des rescapés 10 ans après, eux qui portent un deuil infaisable sur leurs épaules, eux qui sont soupçonnés du pire. Si vous avez survécu, c'est qu'il y a des raisons et pas des belles ni de bonnes raisons. On a connu ces accusations et ces soupçons. Voilà des figures peut-être encourageantes. En Afrique du Sud, depuis des années, depuis la même période, on a mis en place, pour se sortir d'un autre crime qui a été l'apartheid, un autre type de crime qui a été l'apartheid, des grandes campagnes vérité-réconciliation. Vérité-réconciliation, ça a l'air d'être deux mots un peu creux comme ça. Mais c'est pas mal la vérité, et c'est pas mal la réconciliation. Évidemment, on commence par la vérité pour aller vers la réconciliation. Mais quelle vérité? Quelle vérité? Et pour quelle justice? Et pour quelle réconciliation? Le Rwanda est en proie à ces problèmes. Et c'est des choses où vraiment, le monsieur tout à l'heure qui disait, l'auditeur qui disait, nous avons apporté la civilisation. Je peux vous dire que je sais pas si j'appartiens à un peuple civilisé ou à un monde civilisé, mais en face des difficultés à trouver la vérité, à appliquer la justice et à se réconcilier, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas quel est le chemin à suivre. Je sais que trop de réconciliation, imposer la réconciliation est évidemment quelque chose de néfaste. Je sais que la recherche de la vérité peut être ne plus en finir et hanter trop longtemps les esprits à un moment où il faut espérer la grâce de l'oubli. Et puis la justice, quelle justice? Blaise Pascal disait, vous savez, l'homme veut la justice, mais il ne sait pas laquelle. Et voilà les sujets qui hantent ce pays qui, c'est vrai, faut l'avouer, nous hante même un jour de congé comme ce lundi de Pâques. La querelle qui continue, la polémique qui continue autour des raisons de l'attentat contre le président Habyarimana le 6 avril 1994, qui a tué l'avion. On va mettre cette question de côté. Elle n'est pas insignifiante. Mais aujourd'hui, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est quelle réconciliation, quelle vérité, et puis aussi, à commencer par 10 ans plus tard, le bonheur des retrouvailles.
Nitugera mu birori bya nyagasani azaduha na guramarira yose tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze Nimukamere bagaragu ba nyagasani Nimutwaze mube maso kandi musenge Muhore mwiteguye kukunywa mari afikuza Nimutwaze mube maso kandi musenge Muhore mwiteguye kukunywa mari afikuza.
Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit qu'elle était ici?
Elle est ici.
En Nacho. Nacho, on est dans quelle région? Alors, on est tout près de la Tanzanie. Et là, c'est une école. Il y a des tas de petits enfants. Il y a tout de suite des grappes de mômes, là.
Petite fille en bleu, le petit garçon en kaki, les grands en vert. Mon vieux, c'est vachement organisé. Je regarde là-dedans si je vois Valentine. Je la vois pas. Bon.
Valentine, il va dire ça, là.
T'as vu la cantine qui s'appelle Ventre affamé, regarde.
La pointe d'oreille.
Ah, ça c'est un ballon. Un ballon de foot fait avec des sacs de plastique ficelés. Et puis un filet autour et ça fait un ballon. Hein? C'est ça? C'est plein de... Football. Football. Ça, vous voyez, ça, ils connaissent tous le football, hein.
C'est très joli.
Ah oui, oui, c'est magnifique cet endroit.
Regardez le sorgho en
mur. Ouais, les eucalyptus, le sorgho. Alors, voilà. Et ben voilà, Valentine. Eh ben, dis donc, on a mis du temps. Bonjour. Tu vas? Ça va bien? Qu'est-ce que tu es belle, t'as grandi, fais voir, mais dis donc, mais t'es magnifique. Et puis donc, tu ris maintenant quand on se retrouve. Est-ce que tu as fait des progrès en français?
Un peu.
Ça va? Génial, je suis content de te retrouver.
Moi aussi.
Mais mon vieux, quelle belle fille.
C'est une belle fille. Hein.
Quelle beauté. On va demander aux enfants de nous laisser un peu passer quand même. C'est bien de te retrouver, hein. Tu sais, c'est incroyable, les gens qui t'ont écouté à la radio et qui me demandent des nouvelles de toi en France. Mais tout le temps, les gens disent « Eh, Valentine, qu'est-ce qu'elle devient, Valentine ?» Mais tu sais, c'est incroyable, comme pour des milliers de Français, tu es quelqu'un à qui ils pensent tout le temps. C'est vrai, hein, depuis 1994.
Ça fait 6 ans qu'il n'est pas revenu. À un moment donné, j'ai cru qu'il était mort. Pendant cette période, je pensais beaucoup à toi et je me disais où il m'a oublié ou peut-être il est mort. Pour moi, c'était toi qui étais mon père. J'avais deux pères, il y avait toi et puis il y avait l'officier du FPR Rusagara qui lui aussi est mort entre temps. Donc je me sentais doublement orpheline.
Ah mais non, il est mort l'officier? L'officier du FPR. Pourquoi tu dis que c'était ton père?
Parce que quand vous m'avez sorti de là où j'étais, vous étiez deux. C'était l'officier Birassa.
Mais oui, mais je me souviens. Parce que qu'est-ce qui te reste de ta famille? Il reste tes frères.
Oui.
Hein? C'est tout.
Oui.
Le poulet? Voilà, 10 ans plus tard, Valentine Yaïbagiza, dans cet internat, ce grand collège, pas loin de Mirobouillet. C'est là que nous la retrouvons. Il y a beaucoup d'élèves dans cet endroit. Un endroit absolument magnifique. Alors voilà, le paysage fait diversion à l'émotion.
On est bien dans l'herbe, là. Regarde ce paysage extraordinaire. Hein.
C'est le lac Nacho, c'est lui. Il y a un autre lac, là, c'est le lac Iema.
Et Nyarubouye, c'est où par rapport
à ça? Nyarubouye, c'est de l'autre côté, ici. Uh-huh. C'est pas loin, c'est 10 km, 15 comme ça. Uh-huh.
Mm. Quel endroit magnifique, hein. Il y a le soleil qui se couche sur les montagnes. Oui,
c'est tout à fait splendide. Lorsqu'on arrive là.
Et alors, vous enseignez ici?
Oui, je donne cours ici.
Parlez-moi un peu des enfants, des élèves. Vous me dites que vous avez 400 élèves.
Oui.
Vous avez une centaine de rescapés, d'enfants qui sont rescapés.
Oui, oui, plus de 100. Les plus âgés avaient 10 ans.
C'est ça.
Ah, ouais. Et même les petits qui sont en première année, deuxième année, 5 à 6 ans comme ça. Oh. Ah.
Et comment ça se passe alors donc avec les autres élèves qui sont des élèves réfugiés qui sont revenus de Tanzanie?
De Tanzanie, même au Congo.
Mais c'est quand même une situation extraordinaire, quoi, parce qu'on a un quart de vos élèves qui sont des rescapés et les autres qui risquent d'être de familles de génocideurs. Faut bien dire la vérité.
Oui, c'est ça.
C'est une situation incroyable.
Hein. Il y a des gens qui ont exécuté. Et vous voyez, c'est normalement ça devrait être deux groupes opposés, mais vous voyez, ils sont là, ils mangent ensemble, ils jouent ensemble, ils prient ensemble, et tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Il n'y a pas de problème, hein.
Pas de problème en apparence. pas de problème en apparence, il y a surtout une force des choses qui veut que les uns et les autres vivent, sont contraints de vivre ensemble, alors on est obligé, on fait contre, comme on disait, contre mauvaise fortune, bon cœur. Mais justement, qu'y a-t-il au juste dans les cœurs, qu'y a-t-il au juste dans le silence des dortoirs le soir dans ce genre de d'établissement? On voudrait bien croire ce que dit ce professeur. On voit pas bien comment il pourrait parler autrement, mais on sait bien que dans les mémoires, dans les cœurs et dans les regards, c'est tout à fait différent.
Nanjye iyo sibe nibyo mfashe nk'intuze ifoto ya mbere wenda yirangiza primaire kayiri kompana n'ubwo mbona ndihuye iyo mfashe ifoto nyine yirangiza primaire gutya kayiri kompana n'ubwo nsanga ndihuye
Quand je vois les photos que tu as prises quand j'étais à l'école primaire et que je la compare à ce que je suis maintenant, je me rends compte que je suis devenue une grande fille.
Ah ben une femme, attendez, une femme. Et alors maintenant, tu retournes de temps en temps à Nyarubuye ?
Non. Si. Kubera ko abantu bafunguwe bose baraho ngaho nagendera babona uko bangize itabisa bakanyishimo sinshobora kujyayo.
Non, je ne veux plus retourner dans cet endroit parce que des gens qui m'ont blessé, des gens qui ont massacré, des gens ont été libérés. Et je me dis que s'ils me voient avec une amputation, ils vont être contents, ils vont me narguer.
Tu crois qu'ils peuvent ils peuvent aller plus loin que ça, ils peuvent t'attaquer, ils peuvent te tuer?
Non, je ne crois pas, mais j'ai une sorte de peur à moi et surtout je ne veux pas leur montrer ce qu'ils m'ont fait. Je n'irai plus là-bas.
Pourquoi tu ne veux pas leur montrer ce qu'ils t'ont fait?
Parce qu'ils s'en réjouiraient. Oh, comment veux-tu qu'ils ne me reconnaissent pas? Je suis la seule à avoir perdu une main. Donc, s'ils voient quelqu'un qui n'a pas de doigt, ils sauront que c'est moi. Je pense que je vais y aller peut-être pour une journée et me cacher chez ma tante ou chez mon oncle qui garde les vaches. Mais une chose est sûre, je n'irai jamais dans les endroits publics comme les églises où ces gens se retrouvent ou dans les meetings autour de la mairie.
Parce qu'en 1996, il y a le retour des réfugiés, et c'est à partir de là que tu as commencé à avoir peur.
Non, non, ceux de 96, on a appris à vivre ensemble, je leur ai pardonné, mais ceux qui ont été libérés, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 semaines. Cela, je ne peux pas leur pardonner, je ne veux pas les voir, parce que le risque, c'est que si je les vois, je risque de ne plus pardonner à ceux à qui j'ai pardonné.
Tu penses que parmi ceux qui sont revenus, et qui ont été libérés de prison, il y a des assassins, t'en es sûr?
Oui, je sais que ce sont des assassins parce que ce sont mes voisins, je les ai vus faire. Et au moment où ils ont été mis en prison, j'étais là, j'étais parmi les gens qui ont témoigné contre eux. Et maintenant qu'ils sont libres, ils vont me narguer. Tu comprends ça?
Alors on va aller dans un instant, on va retourner à Nyarubuye, mais sans Valentine, on va la laisser dans son collège. On va aller à Nyarubuye, sur le lieu du massacre d'il y a 10 ans, avec des acteurs de ce massacre et des assassins, ceux qui ont été 4 parmi ceux qui ont été condamnés pour meurtre et actes génocidaires dans cette paroisse, pour non pas une reconstitution, mais pour les entendre nous expliquer sur place
comment les choses se sont déroulées. Mais Valentine, désormais, préfère ne pas raconter son histoire n'importe quand, n'importe comment. Elle veut témoigner, elle ne veut pas se taire, mais elle ne veut pas parler n'importe comment.
Est-ce que c'est une histoire que tu racontes à tes amis, à tes copines?
Non, je n'en parle pas. Pourquoi j'en parlerai d'ailleurs? Parce que je ne connais pas très bien les gens ici. Il se peut que je me mette à raconter mon histoire à quelqu'un qui s'en fiche complètement ou même qui s'en réjouit. Donc je préfère garder tout ça pour moi.
Et avec d'autres rescapés, tu peux raconter?
Oui, mais même, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de confiance, parce que si c'est pas quelqu'un de confiance, il vaut mieux ne pas lui raconter tout. Tu poses trop de questions.
Hein?
Tu poses trop de questions.
Oui, mais écoute, si je suis ton père, on répond. Le père peut poser toutes les questions qu'il veut.
Oui, oui, tu es mon père, mais tu poses trop de questions quand même. Hein?
Combien ont-ils tué de personnes? On ne le saura jamais. Je parle des hommes qui sont devant nous, habillés de rose, avec ces fameux costumes roses, des prisonniers accusés de, ou condamnés pour génocide. 120 000. Un certain nombre ont été récemment libérés. Il en reste à peu près 80 000 dans les prisons rwandaises. Et ceux qui sont avec nous, combien ont-ils véritablement tué? Ils ont avoué certains meurtres, mais avec le système du plaidé coupable, qui prévaut pour la justice du Rwanda, il suffit de s'accuser, enfin d'avouer un certain nombre de crimes, et puis une peine, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais voilà, il y a la vérité. On parlait de vérité et de réconciliation. Ça laisse une drôle d'impression, mais en même temps, on comprend bien que c'est un des pièges monstrueux des organisateurs et des architectes et des penseurs de ce génocide, c'est que la justice sera impossible. Et c'est face à cette justice impossible que nous nous trouvons et que le Rwanda se trouve. Donc ces quatre hommes, les voilà, nous voilà à leur côté pour qu'ils nous racontent dans le lieu même comment les choses se sont passées il y a 10 ans. Alors nous voilà à Nyarubuye encore une fois devant cette église qui était vraiment l'endroit le plus sinistre du monde 10 ans après. Moi, c'est là que je suis arrivé la première fois. Tu vois qu'on est arrivé avec le FPR ici, là où vous êtes garé. Et là, on a vu des premiers cadavres ici, sur les marches, là-bas. Ah, il y a exactement 10 ans. Par où vous êtes arrivé, vous?
Quoi, tout le monde, tous ensemble?
Nous sommes venus de là.
Ah,
je suis à pied.
Là-bas, j'ai mon mandat.
Il y avait d'autres qui étaient venus en véhicule.
Toi, t'avais un gourdin et une machette? Toi, tu avais quoi?
J'avais tout.
Moi, j'avais un arc.
Toi, t'avais quoi?
Un tenir.
J'avais un gourdin.
T'avais un gourdin et toi?
Un tenir.
Un gourdin.
Que vous aviez emmené du village?
Mmh.
Hey. Oui. À quelle heure vous étiez parti du village?
Du temps, le matin.
À l'aube, à 6h du matin.
Et du coup, vous dites quoi?
C'est là où les militaires nous ont rassemblés et nous ont donné des instructions. Ils nous ont demandé, est-ce que vous savez ce que vous allez faire, le travail qu'on va vous faire faire? Les militaires nous ont dit, ils nous ont répété la même chose, ce qu'on nous avait dit, les responsables. Quand nous allons arriver là où on va, nous allons exterminer tous les Tutsis qui sont là.
Et tous les quatre, vous étiez d'accord avec ça?
Oui, nous avons accepté. De toute façon, l'État a été dirigé par des militaires. Quand les militaires te disent ce qu'il faut faire, évidemment, on devait exécuter.
Alors évidemment, l'excuse est prévisible et attendue. Elle est probablement en partie vraie. C'est pas la seule excuse possible, c'est pas la seule explication possible, il s'en faut de beaucoup, beaucoup, parce que plus on avance dans ce sujet pour essayer de comprendre, plus on voit que l'une des difficultés, c'est qu'il faut l'inscrire évidemment dans le temps plus long de l'histoire. Et c'est vrai qu'on peut dire que quand on dit et on répète, tout a commencé le 6 avril 1994, bien évidemment que c'est une erreur, c'est faux. Ça avait commencé bien avant pour les historiens. On peut parler d'un génocide qui a commencé en 1959, et pour les historiens et pour les Rwandais, ceux qui ont suffisamment vécu, et même les jeunes, ils savent très bien qu'il y a c'est une histoire longue. Aussi, les paroles qu'on entend là et ce qu'on nous dit doit être vu à la lumière extrêmement restreinte du présent. Donc, quand est-ce que vous avez vu les gens qui étaient dans l'église?
Les instructions qu'on avait, c'était d'encercler l'église. Les uns sont passés par la droite et nous sommes passés par la gauche. Quand nous sommes arrivés ici, les gens parlaient, ils étaient dans l'enclos dedans. Les militaires ont commencé à tirer avec des lance-grenades, d'autres utilisaient des fusils, les miliciens aussi tiraient dedans. Après, il n'y avait plus de bruit. Les gens ne parlaient plus, il y avait un silence. C'est là où nous sommes entrés en jeu.
Ah, on va aller voir, venez voir, on va aller voir.
Écoutez, la vie qu'il faut, ça commençait par ici, parce que les gens passaient ici.
Oui, c'est ça, les gens sortaient de l'église par ici, par la porte de côté de l'église. Voilà, ils sont sortis par cette porte-là, sur le côté de l'église. Ils ont traversé cette petite cour, je me souviens du cadavre qui était là.
Nous sommes entrés par ici.
On va rentrer par cette porte-là à nouveau.
Nous sommes entrés.
Donc ici, là il y avait du monde. Là.
Ici il y avait du monde. Les gens ici sont morts de grenades.
Et ici vous avez commencé à tuer ici?
Non, les gens, il n'y avait pas de gens ici.
Si, moi j'ai vu des gens ici, j'ai vu des cadavres en quantité.
C'était la première fois que je venais ici, je ne connaissais pas très bien l'endroit. Oui, tu as raison, il y a des gens qui sont morts ici.
Entre les manipulations et les tricheries de la mémoire elle-même, et les duperies, les oublis, c'est extraordinaire. On voit là, pour une histoire comme celle-là, à quel point il est extraordinairement difficile d'essayer de reconstituer et d'arriver au début du nombre, d'une once de vérité. Ah, c'est où, c'est là?
Ah, oh.
Oui, c'est là.
C'est ici
que j'ai tué une femme.
Et... ici, là?
Oui, c'est dans cette chambre.
Elle s'appelait comment?
Catherine.
Ça s'appelait Catherine.
C'est-à-dire que c'est la femme qui l'a avoué.
Oui. J'ai accepté mes crimes.
Mais tes crimes ou un crime?
Non.
C'est un crime. J'ai tué une seule personne.
Tout le monde rigole parce qu'on sait très bien qu'il a tué beaucoup plus que ça.
Mais voilà, c'est le système, c'est le plaidé coupable. Donc il suffit qu'ils disent qu'il en a tué une.
Ils vont nous montrer là où.
Il a tué lui.
Il a tué Clément.
Voilà. On arrive dans le champ des morts. Et c'est pas triste du tout parce qu'il y a le gardien qui est allongé dans l'herbe qui est en train d'écouter sa radio. Et puis là-bas, on est en train de réparer la toiture du mémorial.
Voilà, c'est toutes ces maisons que vous voyez là-bas. Voilà les maisons dont je vous parlais. Toutes ces maisons étaient détruites par des grenades.
Merci, merci.
Dans cette cour, il y avait plein de gens et d'autres étaient réfugiés dans les maisons là, les maisons que vous voyez là devant vous.
Donc vous êtes entré par cette porte et vous avez commencé à tuer.
Les militaires étaient devant nous. Nous sommes entrés avec eux, les militaires en tête. Les militaires lançaient des grenades dedans. Alors, les rescapés, ceux qui étaient encore vivants, les militaires nous disaient d'entrer, de les achever. Alors, on se ruait dans les petites chambrettes pour les achever.
Ceux que tu as tués, toi, tu les as tués où, ici?
Montre-nous. Je suis venu de par cette porte, la petite porte là. Clément, il était debout ici. J'avais un arc. J'ai tiré la flèche à partir de là.
T'avais un arc?
J'avais un arc. J'avais deux flèches.
En tout? T'es venu avec deux flèches?
Oui, le guitoué, j'avais deux flèches.
C'est tout? C'est pas beaucoup de flèches, dis donc.
J'ai tiré la flèche. J'ai gardé une jusqu'à la maison. Je suis rentré avec l'autre.
Mais généralement, dans la tradition traditionnelle, on va à la chasse avec une seule flèche?
Oui, j'ai toujours eu deux flèches chez moi.
Alors on est dans ce, appelons ça le champ des morts, c'est-à-dire une cour qui aujourd'hui a été transformée en mémorial. C'est là où il y a 10 ans on avait trouvé ces quantités de cadavres entassés. Au milieu de cette cour, il y avait une petite maisonnette qui était une cuisine dans laquelle nous avions trouvé Valentine. Et là, dans la scène que vous voyez, nous sommes avec ces quatre prisonniers qui nous racontent ce qu'ils veulent. Mais il y a les gens du village qui nous suivent, qui écoutent, qui sont très attentifs, très très silencieux, mais très attentifs.
Alors lui, il nous a montré où il avait tué la femme. Et lui, où est-ce que tu as tué toi? Le musulman avec son beau bonnet.
Moi, c'était ici, dans la cour. C'était dans cette cour, ici.
Qu'est-ce que tu as tué, toi?
Guavera.
J'ai tué le Guavera. C'était un homme.
Et toi aussi, tu n'as tué qu'une personne?
J'ai tué une personne.
Et puis après, t'es rentré?
Ouais, ce gars-là, tu t'es tué.
Il a fait nuit, et puis je suis rentré.
C'est possible, hein? On va demander aux habitants un peu ce qu'ils en pensent, aux gens du village. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez ce qui se dit?
Oui.
Quel est votre sentiment?
Nous savons beaucoup de choses, sans nous n'avons pas à avoir des sentiments, puisque nous étions là. J'habite à 400 mètres d'ici.
Vous êtes rescapé?
Non, pas du tout. Je suis Hutu.
Et vous avez pourchassé les gens aussi?
Oui, j'ai participé à des attaques, mais j'étais forcé. Ce monsieur-là, même s'il manque, il est passé par ici. Il a commencé par là, de l'autre côté. Il est en train de mentir. Lui, il est venu dans des véhicules, 5 véhicules. Toi, je t'ai vu. Je suis venu de par là, je t'ai vu, comme je te vois maintenant. Toi, tu étais parmi les 5 véhicules qui étaient ici. Tu attendais les gens qui pouvaient s'échapper, qui tentaient de s'échapper et voulaient tuer. Tu étais parmi ces gens-là.
Et d'après toi, ils ont tué beaucoup plus qu'une personne. C'est quoi?
Je viens chez Vassos.
Ce
qui avait des armes blanches, les gens qui sont morts ici sont surtout morts à cause des grenades et des fusils. Ceux qui sont venus avec Tiassa, dont lui, c'est eux qui ont tué beaucoup de gens. C'est eux qui ont travaillé.
Travaillé. Ce mot est terrible, sera terrible jusqu'à la fin pour nous, ce mot de travailler qui veut dire tuer, qui veut dire exécuter, qui veut dire massacrer des hommes, des femmes et des enfants. Et là, c'est une scène terrible parce qu'on est avec ces prisonniers, ces condamnés qui ont été jugés, condamnés au mois de décembre dernier par un tribunal du Rwanda et à des peines de 25 ans, je crois, 16 et 13 ans de prison pour des meurtres. Les uns disent une seule personne, les autres disent l'un qui a 25 ans dit 10. Mais quand on est avec les habitants comme ça, on comprend que cette justice est une justice, voilà, la justice qu'on a pu faire, qu'on a cru pouvoir faire, qu'on a cru devoir faire, mais qui est loin de la vérité. Et celui qui nous parle, qui est donc un Hutu, un monsieur d'un certain âge, veut la vraie vérité. C'est l'homme qui veut la vraie vérité parce qu'il sait, parce que et on est peut-être là enfin avec l'homme juste, l'homme vrai, l'homme courageux, l'homme résistant que nous recherchons à travers tous ces voyages et tous ces reportages.
Donc tous les quatre là, ils ont tué beaucoup plus que
ngabazaje hano sinabashe kumenya umubare wo bishe ariko abantu baguye hano basose hanze niba harwa abantu bake ntihabuze nk'abantu 300.
Je ne peux pas savoir combien ils ont tué, mais eux ils s'étaient chargés de veiller à ce que personne ne puisse s'en sortir. Et les gens qui ont tenté de sauter cette cour, ils étaient plus de 300 et ils sont tous morts. Donc ils ont été tués par des gens.
Comment vous savez tout ça? Où vous étiez vous?
J'étais ici. Et puis moi je travaillais j'étais chargé de la cuisine ici.
Où elle était la cuisine?
La cuisine était ici.
Où ça?
Ici il y avait une cantine ici.
Ces gens-là, les quatre et
leurs complices, quand ils sont venus pour chercher les gens chez nous, ils ont pris l'enfant de mon oncle. Alors j'ai suivi l'enfant de mon oncle. Le neveu est venu, il a participé à ces massacres. Mon neveu est avec eux d'ailleurs en prison.
Il a une peine de combien?
Il n'a pas encore jugé.
Mais toi, qu'est-ce que tu as fait exactement?
Quand je suis arrivé ici, je suis venu avec eux, arrivé ici, quand j'ai vu tous ces gens-là, ils venaient tuer, moi je n'ai pas le droit de tuer. Comme je n'avais pas le droit de tuer, je n'ai pas participé à ces massacres.
Pourquoi tu n'avais pas le droit de tuer, toi? Qu'est-ce qui t'interdit de tuer?
En fait, moi, j'ai déjà assisté à plusieurs guerres. Je sais ce que c'est qu'un être humain. J'ai déjà assisté à trois guerres. Chaque fois, quand je voyais des Tutsis, j'essayais de les cacher ou de leur dire, de leur montrer le chemin. Mais j'ai assisté à trois guerres. Cette guerre était très meurtrière.
Comment tu t'appelles?
Kimonyote Honest.
Je m'appelle Kimonyote Honest.
T'es honnête.
Voilà, Kimonyote Honest avec son chapeau et son bâton. Il boite un petit peu, monsieur T'es honnête. Et les trois guerres dont il parle, c'est 59, c'est la révolution, entre guillemets, de 59, c'est les massacres de 63, que tout le monde avait qualifié à l'époque de génocide, 1963, et puis les massacres de 72, entre autres, grands moments de massacre des Tutsis du Rwanda. C'est fort de ces expériences-là, comme témoin, que T'es honnête parle, et dit qu'il ne peut pas se taire, simplement qu'il ne peut pas se taire, quel que soit le prix à payer.
Voilà, avant de Rukira,
ceux qui sont venus de Rukira,
ils ont pillé,
mais samedi ils sont venus voler les vaches chez nous, dans notre village. Il y avait plein de gens, il y avait des femmes, des hommes. Ils sont d'abord venus ici, ils ont déshabillé les morts et achevé ceux qui ne sont pas encore morts, ceux qui
gisaient encore.
Parmi les gens qui sont revenus achever, les gens ici, parmi les quatre, il y en a deux.
Et quel
c'est? C'est celui qui a une casquette, celui qui a une casquette musulman. C'est le vieux et celui qui a une casquette.
T'as pas peur pour ta vie de parler comme tu le fais?
Ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps que je témoigne. Même le tribunal de première instance, j'ai toujours dénoncé, j'ai toujours dit ce que j'ai vu.
Mais alors on n'est pas d'accord du tout, hein, on n'a pas les mêmes versions là. Hein? Ils sont pas contents, hein. Ils sont pas déjà très contents. Ok, allez, on va partir.
On va aller ramener les génocidaires en prison. On va laisser les ouvriers finir de construire le mausolée, le mémorial. Puis on va laisser tous les autres avec leurs fantômes.
Retour au collège de Valentine, c'est avec ses 400 élèves de ce collège dont, selon le directeur, un quart, une centaine sont des rescapés, des jeunes et des enfants et des jeunes rescapés, qui étaient des enfants à l'époque il y a 10 ans. Et retour avec Valentine, on essaye de pas trop parler de tout ça et on partage un soda.
Tu sais la première chose que tu nous as demandé,
oui.
tu nous as demandé si tu pouvais boire un Fanta.
J'ai demandé un Fanta parce que c'est quand je suis arrivée à l'hôpital que je demandais du lait.
Après, tu as été prise en main par les soins, tu as été soignée à Kibungo.
Oui.
Puis après, on connaît la suite de l'histoire à peu près.
Maintenant, tu es une belle jeune fille.
Tu es une fille superbe.
Superbe.
Est-ce que quand même tu nous inviteras à ton mariage?
C'est toi le père, c'est toi qui vas donner la mariée.
Ah oui, mais faut que... Et le fiancé, il faut qu'il vienne me demander. Et il ne faut pas que ce soit n'importe qui.
Oui, bien sûr.
Hein?
Bon. Promis. Promis.
Ok, c'est bien.
Est-ce que je peux te demander un service?
Tout ce que tu veux, c'est oui. Une fois, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit, je veux des vaches. C'est la demande la plus... Et j'avais dit, oui, tout ce que tu veux. Donc, tu m'as dit, je veux des vaches. Et là, on a été un peu étonné, je t'avoue.
Ma seule requête, c'est que tu ne me laisses plus tomber pendant autant d'années. au moins que tu viennes me voir ou que tu me fasses signe une fois par an.
D'accord.
Parce que chaque fois que tu disparais comme ça, je me dis que tu es mort. Et ma copine le sait, je dis à tout le monde, le seul qui m'en restait aussi est mort. Ce que je voulais te dire aussi, parce que je n'ai pas pu l'exprimer comme ça, c'est que j'ai été très 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 émue quand je t'ai vue. Je n'arrivais pas à le montrer, tout simplement parce que pour moi je ne peux pas t'oublier. Ce que je te demande, c'est que tu embrasses toute la famille, que tu embrasses Céline et tout le monde, que tu leur dises que Valentine est une jeune fille maintenant.
Une vraie jeune fille. Bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors là, moi je suis un peu gêné là. Ça me fait drôle parce que, voilà, il y a 8 ans, Valentine m'a demandé une vache. J'ai offert une vache. Et là, 8 ans après, il y a 5 vaches. La vache a fait des petits, et on en est à 5 vaches. Et alors là, on va se quitter, et Valentine voudrait me faire un cadeau. Et le cadeau qu'on fait quand on a reçu une vache, eh ben, c'est de donner un petit de la vache. Et je suis très très embêté parce que, d'abord, ce serait le transport qui serait délicat, mais ensuite, c'est comment je pourrais vivre avec ma vache dans mon appartement qui fait 35 mètres carrés peut-être. Et Valentine, comment t'imagines ma maison ?
J'imagine une belle grande maison, une très belle maison.
C'est joli.
Avec un très beau jardin tout autour. Situé dans un très bel endroit, un beau site. Oui, bien sûr, c'est plus beau que Kigali. Chaque fois, je regarde les photos de Paris, les images de Paris dans le livre que vous m'avez donné. J'imagine, j'ai eu même envie d'y aller, mais bon, c'est pas encore le moment.
Un de ces jours, tu vas bien venir à Paris, tu vas venir me voir à Paris. Ah ouais.
Ça me fera plaisir.
Mais il faudra que tu parles français. Quand tu parles bien français, tu viens, ok?
Oui.
Mais, même pour me faire plaisir, quand tu viens, n'amène pas la vache.
Nous allons avoir quelqu'un.
Non, on sera très embêtés. Je ne crois pas que la vache serait heureuse à Paris. Il y a pourtant ce qu'il faut. Il y a des jardins, il y a une rivière au milieu, elle pourrait boire. On pourrait trouver quelqu'un pour la traire, c'est vrai après tout. Mais elle ne serait pas aussi heureuse qu'ici quand même. Merci à tous, merci à Maurice, merci à Alice, merci à Madeleine. Reportage Guy Van Cleef, technique aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne et Sébastien Royer. Le répondeur c'est Christophe Humbert et le numéro c'est le 01 56 40 37 37. Montage assistant Yann Chouquet, réalisation Koy Nguyen. Il est 18h sur France Inter, on se retrouve demain à 17h pour la baisse si j'y suis et je vous laisse pour le journal avec Adil Martin. Salut.